Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés malgré le temps et l'heure de la journée pour cette rencontre avec Marie-Cécile Labrèche. Je vais la présenter brièvement pour ceux qui la connaissent moins. Marie-Cécile est une jeune écrivaine de la relève littéraire. Elle a déjà publié 3 romans, c'est-à-dire Borderline en 2000, Labrèche en 2002 et La Lune dans un HLM cet automne. Les 3 livres ont été publiés chez Boréal et Borderline a déjà été traduit en plusieurs langues. Elle a également publié récemment un texte de fiction intitulé « Mon Montréal à moi » dans le collectif « Montréal, la marge au cœur » publié chez Autrement. Elle a également publié de nombreuses nouvelles dans diverses revues, comme par exemple « Stop »,« XYZ »,« Jet d'encre » et « Zinc ». Elle est également journaliste, pas à temps perdu, mais...
pas loin.
pour plusieurs revues féminines. Et elle a récemment travaillé à un scénario portant sur ses 2 premiers romans qui devrait très bientôt être porté à l'écran. Donc, la réalisation du film devrait arriver imminemment. La rencontre va être divisée en 3 parties. On va d'abord commencer par une lecture où Marie va nous lire la 3e lettre tirée de La Lune dans un HLM. Ensuite, j'ai quelques petites questions, plusieurs, parce que je parle beaucoup, que j'ai préparées pour poser à Marie. Puis ensuite, ça va lui faire grand plaisir de prendre vos questions. Donc, notez-les bien pendant la rencontre. Vous pourrez les poser vers la fin. Alors, je laisse Marie lire la 3e lettre de La Lune dans un HLM.
OK. Moi, je ne suis pas habituée de parler devant le monde. Je suis toujours derrière un écran, fait que je trouve ça dur quand je suis devant le monde. Je risque de parler vite, vous allez voir. En tout cas, OK. Ce matin, j'ai voulu me faire un café, mais une coquerelle énorme, probablement une femelle sur le point de pondre ses œufs, car quelque chose pendait de son derrière, courait dans ton percolateur. J'ai pensé à te réveiller pour que tu tues l'intruse, mais je n'ai pas osé. Pas nécessairement parce que tu dormais bien, yeux et poings fermés avec tes pieds maigres couverts de corps jaune qui sortaient de la couverture râpée, mais parce que ton réveil signifie la perte de ma petite liberté dans ton HLM, le peu de temps que je te vole pour me tourner autour du nombril. J'ai attendu que la coquerelle quitte le percolateur et se réfugie entre le comptoir et la cuisinière. J'ai rincé le récipient avec de l'eau et du savon à vaisselle et me suis fait du café. Je serai prête à manger des vers de terre, des pizzas couverts d'yeux de crapaud, du lait frappé à la vitre pour ne pas t'avoir dans mon champ de vision. C'est terrible de penser de telles choses de sa mère. Et surtout de les écrire. Pourtant, je t'ai déjà dit des monstruosités bien pires. Tu te rappelles cette fois où le gouvernement, avec son article 37, avait passé une loi qui obligeait tous les bénéficiaires de l'aide sociale à réintégrer le marché de l'emploi? Toi, on t'avait inscrite à des cours, retour sur les bancs de l'école, pour terminer ton secondaire. À l'annonce de la nouvelle, tu avais rêvassé au sujet de ta vie future. Tu terminerais ton secondaire. Ensuite, pourquoi pas le cégep et l'université? Sky is the limit. Tu te voyais déjà dans un petit tailleur Sears, secrétaire pour un avocat en vogue, ou encore dessinatrice de robes de princesse. Mais plus le temps passait, plus tes rêves faisaient place à des pensées noires. Tu as commencé à t'inquiéter de tout. Du temps à rattraper, des soirées à étudier, des livres à lire, des mathématiques qui te faisaient craindre le pire, des autres qui allaient t'entourer. La veille de ta rentrée scolaire, c'était l'apothéose. Tu volais comme une carpe au plafond de la cuisine, propulsée par tes inquiétudes. Et si la maîtresse me frappe sur les doigts avec une règle parce que je ne comprends pas l'algèbre, la racine carrée du néant? Et si, pendant que je suis là-bas, ma mère ne se sent pas bien, crache du vomi, du sang, vomit ses tripes, qu'elle est prise de convulsions et rend son dernier souffle parce qu'elle s'étouffe avec sa langue. Et si un homme tente de me violer dans une de ces toilettes sombres du bâtiment alors que personne ne peut entendre mes cris? Et si? Et moi qui ne comprenais pas que tu ne sois pas heureuse d'aller à l'école pour apprendre des choses, alors que les études me changeaient les idées comme un soap à la télé. Fatiguée de tes plaintes, je t'avais dit que tu serais bien mieux morte que vivante. Tu t'étais claquemurée dans ton silence. Et là, la grand-mère en avait profité pour combler ce silence en m'engueulant royalement parce que je t'avais dit cette chose terrible. Elle m'avait crié par la tête que j'étais une nuisance et que je devais quitter la maison familiale, partir loin d'elle et de toi, que je n'étais là dans votre vie que pour vous faire du mal. Mes paroles étaient des couteaux prêts à vous hacher. Déjà bébé, mes cris étaient des canifs qui vous perçaient les tympans. Elle aurait dû s'en douter et jeter le bébé avec l'eau du bain. Que je n'avais pas ma place ici dans votre maison, que j'étais une dévergondée qui ne faisait que ramener le trouble à la maison, quand ce n'étaient pas des garçons aux cheveux longs qui vous terrorisaient avec leurs regards de voleurs de maigres économies cachés sous les matelas. Qu'il faudrait que je parte, qu'elle aurait aimé être la NASA l'espace d'un moment pour me projeter en orbite autour de Pluton. Non, plutôt autour de cette planète récemment découverte dont on oublie constamment le nom. Et elle continuait de me poursuivre dans le HLM avec sa bouche ronde comme un canon. Le pire est que c'est toi qui avais pris ma défense. Tu avais sauté au cou de ta mère comme une lionne sur une hyène et tu l'avais avertie de ne plus jamais me dire des choses de la sorte. Que j'étais ta fille, ta progéniture, la chair de ta chair et que tu m'aimais. Tu n'as pas fait long feu au centre Gédéon Ouimet, où tu devais finir tes études secondaires. Comme prévu, tu as pris les choses trop au sérieux, faisant des maths jusqu'à plus d'heures, découvrant des racines carrées sur les murs, t'imaginant finalement tous les autres élèves poqués comme contre toi. Un papier du médecin et c'était fini. De retour à la maison pour de bon. Tu t'es enfermé à double tour dans ton HLM et ta mère et toi avaient passé plusieurs années à empirer ton bref passage scolaire. Vous avez si bien transformé la réalité qu'à la fin, un vieil étudiant sale avait failli te violer. La maîtresse et toi, vous étiez battus et on avait tenté de t'enfermer dans un cachot. Les études, ce n'était pas pour toi. Bordel, être dans ton HLM fait sortir le méchant. Et il y en a des kilolitres de méchanceté. Je suis une fille ignoble chez toi. Je suis affreuse en ta présence. Tu serais mieux de ne jamais te réveiller devant mon véritable visage. Il n'est pas beau en ce moment. Je suis hideuse, hideuse. Je suis couverte de pustules. J'en ai même sur la langue, dans la paume, dans les paumes, sous les pieds, dans le blanc des yeux. C'est pour cela que l'intérieur de mes yeux est jaune. On dit que c'est parce que j'ai la maladie de Gilbert, mais c'est tout faux. J'ai la maladie de ma mère. Tu es entrée en moi un jour où je regardais ailleurs que dans ta direction. Tu m'as prise par surprise, ou peut-être était-ce durant une des mille et une bronchites qui me clouait au lit quand j'étais gamine et qui m'obligeait à avaler quantité de médicaments. C'était pour m'endormir et en profiter pour m'ouvrir le ventre et te coucher entre mon intestin et mes poumons. C'est pour cela que je respirais avec tant de difficulté, à moins que ces boutons ne soient le résidu de ton passage dans mon corps. Tu manges tellement de sucre. D'ailleurs, là, tu viens de te réveiller et tout de suite, tu es venu t'asseoir près de moi à la table pour t'empiffrer de gâteaux Vachon à la crème chimique et à la pâte douteuse. Il est 9h du matin et tu manges les gâteaux à la crème blanche qui dégouline sur ton menton. Et tu prends des gorgées de coke et un autre gâteau et une autre gorgée de coke. Et tu me parles la bouche grande ouverte, montrant la crème et la pâte. Une texture comme du vomi prête à me sauter à la gorge. D'ailleurs, tu es cette pâte avec des yeux énormes dans la cuisine. Ta bouche est une trombe qui aspire tout le sucre qui se trouve devant toi. Et quand il n'en reste plus à ta portée, tu cours après moi dans ton HLM pour m'aspirer, me prenant sûrement pour un jujube géant. Et tu cours, et moi je me heurte partout pour t'éviter. Sur les chaises, les lits, les couteaux qui traînent ici et là. Et tu jettes avec ta bouche en forme de trompe des splouches de pâte sur les murs, par terre, au plafond. Des splouches dans lesquelles je finis par me prendre. La pâte coule sur moi, m'empêche de bouger, de respirer. Je suis prisonnière, debout au milieu de la chambre de ta mère morte dans une pâte brun et pâle. Et tu danses autour de moi, te régalant d'avance de ton futur festin. Je te dis de t'essuyer la bouche, tu as de la crème jusqu'au milieu du front, dans les cheveux. La crème coule de toi, se répand par terre, forme une flaque énorme, se solidifie, se transforme en ciment. Je suis prise au piège sur ma chaise. Jamais plus je ne pourrai te quitter. Tu me nourriras à la petite cuillère, ramasseras les dégâts sous moi, comme quand j'étais bébé et que j'étais à ta merci. Tu t'essuies, tu souris, tu me déverses ensuite ton fleuve de questions. Est-ce que je reste avec toi aujourd'hui? Est-ce que je dînerai souper avec toi? Qu'est-ce que je souhaite manger? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Il faut que ce soit des choses simples, pas compliquées à réaliser, et sans pain dur à mâcher non plus, car tu as mal aux gencives. Ton dentier te fait souffrir. Le martyr, il creuse des tranchées dans tes gencives. Il te fait des trous dans la tête comme un gruyère. Je te dis d'aller voir le dentiste, de ne plus endurer ça. Mais comme d'habitude, tu me dis que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas sortir de la maison. Tout à coup que j'ai besoin de toi. Tout à coup qu'un vendeur, un voleur, un tueur se présente à ta porte et que tu ne sois pas là pour te faire attaquer. Que se passera-t-il? Tu es comme un capitaine de bateau et tu dois demeurer au poste au cas où un iceberg se profilera à l'horizon. Si tu sors et que tu as la diarrhée, que tu ne puisses plus te retenir, que tes tripes te fassent si mal que tu doives relâcher tes 32 sphincters, te libérer tout de suite de cette crème avalée entre deux voitures dans la rue Saint-Denis, qu'est-ce que les badauds penseront de toi? Et si jamais tu sors et que je sois bien en ton absence, qu'est-ce que tu deviendras? Tu restes donc dans ton HLM, tu as un emploi de temps chargé, tes angoisses sont des travailleuses acharnées. Non, je ne dînerai ni ne souperai avec toi. Je te laisserai seule en ton HLM et j'irai au resto d'à côté pour ne pas voir l'intérieur de ta bouche quand tu manges, pour ne pas voir ce que tes dentiers font de la nourriture. Si tu fais exprès de manger la bouche ouverte depuis toujours, c'est pour me montrer ce que tu souhaites faire avec moi un jour. En fait, tu n'es pas une énorme pâte. Tu es plutôt une coquerelle géante qui essaie de sucer mon sucre pour te nourrir afin de te multiplier. C'est pour cela qu'il y a toujours eu des coquerelles dans notre vie. Elles sont mes petites sœurs. Nous sommes du même sang, elle et moi. Elles sortent de de ton ventre, elles aussi, et dire que je les ai toujours reniées, comme on renie un membre de la famille, informe, qui bave partout quand il tente de parler. Une paraplégique qui s'agite sur son fauteuil roulant parce qu'elle a fait sous elle. Un oncle sourd qui veut quand même nous raconter son enfance alors qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Sa bouche n'adopte pas la bonne forme des mots. Sa langue est lourde comme un paquebot. J'aurais dû dire oui à ton psychiatre la fois où il nous a fait venir toutes les deux dans son bureau afin qu'on prenne une décision éclairée, lui et moi, concernant ton avenir. Devait-on t'interner ou pas? J'aurais dû répondre oui, mais je n'ai pas pu. Les fois où tu t'es faufilée en moi pendant que j'avais le dos tourné ou que j'étais trop petite pour me protéger ont laissé des séquelles. Tu réponds à ma place.
Merci.
Je lis vite, là. C'est...
Non, t'as lu lentement, là.
Oh mon Dieu, ça me stresse tellement lire devant le monde. Je suis tellement pas habituée.
Tu prends tout le temps une voix de petite fille aussi quand tu lis.
Je ne sais pas, ouais. Je ne me rends pas compte. Mon éditrice me dit la même affaire.
Tu parles de ta mère avec une voix de petite fille?
Mm-hmm.
OK. Mm-hmm. On va passer aux questions. D'ailleurs, j'ai divisé un peu mes questions, pas en thème, mais en problématique plutôt. Puis, j'aimerais bien commencer donc par le commencement, c'est-à-dire te poser une question sur borderline. On va venir éventuellement à la Lune dans un HLM. Ceci dit, borderline, c'est le début de l'écriture pour toi, en tout cas du roman. C'est une narration qui est faite à la première personne aussi, comme dans La Brèche. Mais dès le début, ton roman va commencer avec l'évocation des paroles de la grand-mère. Donc, dès que ta narratrice prend la parole, c'est pour tout aussitôt laisser parler de la grand-mère. Puis je vais citer d'ailleurs le tout début de borderline. D'aussi loin que je me rappelle, ma grand-mère m'a toujours raconté des niaiseries, toutes sortes de niaiseries. Par exemple, quand j'étais à Nantes, elle avait coutume de me dire « Si t'es pas gentil, un fifi va entrer par la fenêtre et te violer » ou « Je vais te vendre un vilain qui fera la traite des blanches avec toi » ou encore « Un assassin va venir te découper en petits morceaux avec un scalpel, c'est ça que tu veux, hein? » À 4 ans, je n'avais pas droit au croque-mitaine ou au bonhomme 7 heures, mais au serial killer. Donc ça, c'est le premier paragraphe de Borderline. Puis je me demandais jusqu'à quel point, parce que la grand-mère, c'est une figure qui va hanter les 3 romans, à un degré plus important ou moindre. J'aimerais savoir jusqu'à quel point la voix de la grand-mère va influencer, affecter ou même gommer la voix de tes narratrices, qui cherchent justement à prendre la parole, à se faire entendre. Mais il y a toujours les paroles de la grand-mère, il y a toujours le discours de la grand-mère, même morte, qui revient.
Non, c'est intéressant comme question. D'avance, j'ai pas voulu avoir les questions, Sandrina. Je me suis dit, ça va être une surprise, OK? Fait que ça va être du frais, là. Il n'y a rien de monté, là, du tout. Donc, la grand-mère, c'est la première fois qu'on me pose ça. C'est sûr que la grand-mère des romans et ma grand-mère dans la vie, c'est une même personne, hein, tu sais. Puis elle était très, très, très présente, très castratrice, très là. Mais, en même temps, très forte. Moi, je dis tout le temps que c'était mon ancêtre borderline. Là. Tu sais, là, c'était genre, j'aime mon entourage, j'aime ma famille, mais je leur dirai pas, puis je vais les caler tout le temps. Tu sais, c'est pas pire, ça. C'est pas pire pour écrire après. Hein. Tu sais, c'est une bonne partance d'envie. Hein, de faire entrer dedans en partant. OK, tu sais. Fait que c'est ça. Alors, la grand-mère, oui, c'était longtemps la personne... pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre la vie et puis l'écriture. Hein. Tout est interrelié, tout est vraiment branché, là, puis d'aplomb, là, tu sais, là, c'est collé. Donc, je voulais réparer plein de choses. Toutes les fois que j'écris, c'est parce que je veux réparer quelque chose. Et puis, la grand-mère, je voulais réparer des choses avec elle, c'est sûr et certain. Tu sais, j'ai longtemps voulu être aimée par ma grand-mère. Ma grand-mère, symboliquement, c'était ma mère. Donc, je voulais que ma grand-mère m'aime, tu sais. Fait que c'était c'était ma voix intérieure. C'était à elle que je m'adressais longtemps. Donc, longtemps dans ma vie, c'était à elle. Encore, ça fait 6 ans qu'elle est décédée. Puis j'en rêve encore au moins 2 fois par semaine. Encore à ma grand-mère, là. Tu sais, elle était vraiment là. C'est vraiment faufilé en moi, elle.
Donc, nécessairement, quand tes narratrices parlent, c'est la grand-mère qui parle à travers elle?
Oh oui, c'est sûr.
Mais justement, autant on entend la grand-mère dans tes romans, autant la mère, elle n'a pas de voix. Je pense qu'une des premières fois où on l'entend, c'est sûr qu'elle parle, etc., mais la première fois où on l'entend vraiment, c'est dans La Lune, dans un HLM, quand la grand-mère est en train de mourir, puis il y a toute l'équipe de tournage pour une émission de télévision sur la mort et le cancer qui vient filmer. Puis c'est là que la narratrice... Léa va dire c'est la première fois qu'elle a entendu la voix de sa mère, c'est la première fois qu'elle a entendu s'insurger ou dire non ou exercer sa volonté, puis elle a foutu toute l'équipe de tournage à la porte. Jusqu'à quel point tes narratrices, et bon, je me permets de faire le saut comme pour toi, le vrai et l'écriture se touchent tout le temps, jusqu'à quel point c'est un peu évident, t'écris entre autres pour exorciser la mère, mais jusqu'à quel point les narratrices et toi-même écrivez pour faire parler la mère, pour faire entendre la mère, parce qu'elle n'a pas été entendue par la société. Je veux dire, la folie, le fait qu'elle a été... qu'elle est dans l'idée du HLM, l'impossibilité de s'éduquer, etc. Jusqu'à quel point tes narratrices, que toi, vous parlez pour elle?
Mon Dieu, Sandrina, tabarouette! On a fait notre maîtrise ensemble, mais t'es tellement étonnante, mais là, je vais en l'air d'une cave. Bon, OK. OK, jusqu'à quel point la grand... j'ai jamais pensé en termes comme ça, parce que j'ai toujours l'impression, moi, que je calme ma mère, puis je me sens coupable à l'os, puis après ça, je suis toute en train d'y acheter des divans, puis toutes sortes d'affaires, parce que je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Puis là, je m'en veux après, puis c'est toute ma dynamique, moi, tu sais, là. Genre, écrire sur quelque chose sur lequel il faut pas écrire, puis après ça, je me sens coupable à l'os, puis là, je veux disparaître, puis... fait que c'est, la dynamique, elle est là, mais c'est drôle que tu penses que je vais donner la parole à la mère, c'est fabuleux.
Non, mais je sais pas si ça peut réparer. La faute? Non, mais je sais pas, je pose la question.
Regarde, le troisième, je voulais faire un roman dans le don de soi. Jusqu'où on peut aller dans le don de soi, tu sais? Jusqu'à où, j'ai bien, dans le fond, si tu trouves que j'ai donné la parole à ma mère un peu plus, là, mais je voulais aller jusqu'à où on est dans une société où on fait pas de gestes gratuits, hein? On s'attend tout le temps à quelque chose en retour. Il y en a peu de Mère Teresa, de véritable Mère Teresa. Fait que l'idée de poser des gestes juste pour faire du bien au prochain, il y en a peu. On s'attend tout le temps à quelque chose. Alors, je voulais faire un personnage qui donnait tout. T'sais. Autant que ma mère, elle, physiquement, peut donner tout à tout le monde. T'sais. Fait que il y avait cette idée-là. Donc, si j'ai donné la parole à...
En tout cas, tu as donné de la place.
Ben oui,
plus là, que dans Borderline. Parce que dans Borderline...
C'était la mère silencieuse.
La mère meurt vite, puis oui. C'est la grand-mère qui... Ouais. Qui reprend pas le discours de la mère, mais ouais. Qui...
Mais j'ai pas pensé en termes comme ça, hein. Tu sais, quand on écrit, hein, c'est tellement pas réfléchi, hein, les affaires, là. C'est vraiment par la suite, hein, tu sais, on... Ah, mais telle chose, ah, oh, ben, OK. Fait que là, c'est vraiment, ah, oh, oui, OK, je suis là-dedans, là. OK, wow!
Okay. C'est comme un reality show.
Ben oui, tu sais, hey, il faudrait que tu m'en poses la question dans une semaine.
Non, mais, non, mais ta réponse suffit amplement.
Hey, tu me connais assez, tu peux-tu répondre à la question?
Non, je vais en poser une autre à la place.
OK, ah, ouais.
Dans tous tes romans, les mères, c'est-à-dire la grand-mère et la mère en soi, se racontent toujours des histoires. Généralement, mm-hmm. C'est des histoires de peur. Ah, il y a un violeur. Bon, comme on l'a vu avec ce que tu as lu et aussi l'extrait que j'ai lu de Borderline. Donc, elles sont toujours en train de se raconter des histoires de peur, celles-là. Puis, je me suis rendu compte en lisant tes bouquins que Émilie Kiki et Léa font un peu la même chose. Donc, Émilie Kiki, l'héroïne de La Brèche, va toujours, qui a une relation illicite avec son prof de littérature, va constamment se conter des histoires aussi, mais c'est des histoires d'amour heureux, de château en Espagne, etc. Alors que pour Léa, c'est des histoires de grandeur.
Oui.
Qu'elle va devenir la meilleure peintre du monde, ça va être la grande héritière de Picasso. Donc, c'est toute l'ambition puis la gloire auquel elle rêve, elle, plus exactement. Puis, j'aimerais que tu parles un petit peu, justement, du fait qu'elles aient peur ou qu'elles rêvent, qu'elles soient des grand-mères, des mères ou des filles, des personnages féminins ont toujours besoin de vivre dans la fiction.
Oui.
D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Oh, je suis assez épatée. T'as tellement lu l'affaire. Waouh, c'est fabuleux, là, Sandrina. OK. Wow. Mon Dieu. Ben moi, je crois beaucoup aux rêves. Hein. Tu sais, il y a un jour, Boris Cyrulnik, sûrement vous le connaissez, là, le monsieur Résilience, là, un jour, on lui a demandé comment vous... Je résume les choses, hein? Fait que là, ils lui ont demandé comment il a fait pour s'en sortir, parce que lui-même résilient, bon, il était, je sais pas, dans quel camp de concentration, tout ça, quand il était petit, tout ça, puis il a dit « j'ai rêvé ». Puis moi, petite, je rêvais déjà beaucoup, tu sais, puis fait qu'il y a quelque chose du rêve. Mes personnages, c'est comme des êtres... qui sont dépourvus de tout, qui se débrouillent avec rien, tu sais, avec le vide quasiment, là, puis comment on peut faire pour s'en sortir quand on n'a pas grand-chose, quand on n'a rien? Donc, c'est le rêve qui vient en aide, c'est de se créer un monde. Moi, j'y crois beaucoup au rêve pour s'en sortir, tu sais, fait que, mais en même temps, il faut quand même passer à l'action. Elles passent aussi à l'action, hein, ces filles-là, elles passent à l'action, des fois, tout croche, puis c'est contre elles. Tu sais, c'est tout peut se retourner contre elles, hein, tout le temps, fait que, il y a de ça là-dedans. Mais c'est parce que c'est tout le temps des bouts de moi, hein, tu sais, les filles dont tu parles, là, tu sais, c'est juste des parties de moi. Tu sais, tous mes personnages, tout le temps, une partie de moi, là, qui est en train d'exorciser quelque chose, là, tu sais. Puis, c'est ça, mon moyen de défense, c'est le rêve. Fait que pour elle aussi, c'est le rêve.
Mais en même temps, tu mets en exergue d'un chapitre de Borderline une citation de Marguerite Duras, tirée de l'amant, qui dit que, Je lui dis que dans mon enfance, le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve, que le rêve, c'était ma mère et jamais les arbres de Noël, toujours elle seulement. Donc, rêver toujours à l'encontre de la mère. Donc, la mère elle-même essaie toujours de prendre la place du rêve avec sa folie, mais rêver malgré.
Oui.
Et
oui.
Contre.
Oui, tout à fait, oui. Ben oui, ben c'est ça, ben autant les personnages dans mes romans que dans ma vie, c'est ça, fait que c'est tout le temps, qu'est-ce qui va être le plus grand? Puis le dilemme du troisième livre, La Lune dans un HLM, c'est là-dessus, hein, tu sais, là, c'est l'histoire d'une mère qui, ben en fait d'une fille qui s'est fait voler son enfance par sa mère, et puis, bon, qui lui présente le dessin, la peinture, puis que finalement, est-ce que sa mère va aimer ça, puis sa mère va être bonne en plus?
Alors, elle va lui voler son ambition.
C'est ça, en plus de lui avoir volé son passé, son enfance, va lui voler son fantasme de futur. Donc, c'est vrai que c'est bien gros à propos du rêve. Hein? Mm-hmm. J'écris, il faut que j'aille les deux pieds dans la réalité un peu plus. Ça serait bon.
Mais je te pose une question concrète.
Vas-y.
Dans ce cas-là. Pourquoi des épilogues? Chacun de tes romans, ils n'ont pas tous un prologue, mais ils ont tous un épilogue. Pourquoi ce besoin-là, une fois que le récit est fini, de retourner avec du recul, d'en dire plus encore, d'essayer de revoir ce qui a été dit?
Oh mon Dieu, là, il y a plein d'embranchements. OK, moi, je ferais un roman, là, juste avec des débuts et des fins. Moi, j'aime tellement ça, faire des débuts et des fins. Le milieu, je me dis, oh boy, ça va être long. Mais je ferais des romans juste avec des débuts et des fins. J'ai plein d'idées pour commencer, plein d'idées pour finir. Puis dans le milieu, je me dis, oh boy, il faut qu'on se rende du point A au point B, là, tu sais, là. Puis, oh, que c'est long d'infos. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, les fins, il y a des fins fabuleuses. Comme tantôt, tout à l'heure, on parlait de Six Feet Under. Je sais pas si vous l'avez vu, là, toute la série, mais la fin de Six Feet Under, là, c'est la plus belle chose au monde qui existe. Ça n'a pas de bon sens. Littérature.
On aime ça, la télé, de toute façon.
Oui. Tout confondu. C'est tellement beau. Fait que des fins d'infos, on dirait que ça, tout te revient en pleine face. Puis là, c'est la révélation. Puis là, oh, ça y est, là, comme Rocky, Adrienne. T'sais. Fait que c'est le même genre. Là, fait que, oui, moi, je prends un roman plein de débuts, plein de fins. J'ai-tu répondu à la question?
T'as vraiment répondu. Je vais en poser une autre plus. Académique.
Oh mon Dieu!
OK. La Brèche, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire, donc, c'est l'histoire d'une histoire d'amour. C'est Émilie Kiki, qui est étudiante à la maîtrise, qui écrit un mémoire sur l'enfer des amants chez Baudelaire. Uh-huh. C'est ça? Qui tombe amoureuse de Chekika, qui est son professeur.
C'est pas chez Baudelaire, de Baudelaire.
De Baudelaire.
Ça se passe chez Baudelaire.
Je suis allée chez lui, puis non.
Pis, ça va bien mal.
Donc, amoureuse de Chekika, qui est prof de littérature, qui est mariée, qui se voit clandestinement, etc. Donc, d'emblée, au premier abord, La Brèche semble être un roman sur une histoire d'amour qui est vouée à l'échec, mais ça m'a semblé aussi être une réflexion sur la littérature. Parce que, contrairement à La Lune dans un HLM, où tu as beaucoup de références de peinture, ben en fait, ça tourne souvent autour de Picasso, mais tu as quand même Frédéric, je donnais un petit son américain,
Frédéric.
qui parle beaucoup de peinture, etc. Mais on se rend compte dans La Brèche, tu es toujours en train de nommer des auteurs canoniques, d'ailleurs. Tu as une citation de Lamartine en exergue.
Oui.
Tu as une citation de Jean Leloup. Tu as une citation de Lamartine. Donc, Jean Leloup, c'est « Fuck the system, do it.
Yes? » C'est sûr, on va retenir ça dans les annales littéraires.
Mais juste avant... On a Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, avant même qu'on commence ton histoire, on a déjà la littérature canonique à côté d'une culture plus populaire, ou en tout cas plus grand public, si tu veux, avec Jean Leloup, la musique, etc. Donc, je me demandais... bon, on voit déjà le rapport de force, on le voit constamment, entre Chekika puis Émilie Kiki. Donc, ouais. Un rapport pas seulement par l'âge, mais c'est le professeur avec l'élève. Mais il me semble qu'il y a un rapport de force constant aussi entre la romancière, la jeune romancière, puis la littérature, avec un grand L, celle qui est enseignée à l'université, celle que Chekika enseigne, c'est un spécialiste de Kafka, entre autres. Puis la jeune fille qui écrit un journal en attendant que son amant l'appelle, en attendant que son amoureux veuille la voir, en attendant qu'il lui dise qu'il l'aime, etc. Donc, je me demandais jusqu'à quel point pour toi, c'est important en tout cas dans ta manière d'écrire ou dans ton processus d'écriture, la littérature canonique. Puis j'aimerais ça aussi que tu parles un petit peu de ta théorie de Lara Fabian et de Nick Cave. Peut-être que ça serait une piste pour que tu puisses répondre.
OK. Ah, c'est bon? Oui, OK.
C'est vrai?
OK. Bon, OK. Ben moi, ben en tout cas, si vous me lisez, ben je viens d'un milieu assez dysfonctionnel. Donc, je viens de l'Est-la-Ville. Je viens d'un endroit où on n'avait pas d'argent. On était hyper pauvres. Puis, personne dans ma famille a fait des hautes études. Donc, personne n'a fini son secondaire. Fait que je viens d'un autre totalement milieu, là, tu sais, là, fait que, là, moi, je me suis accrochée à l'école parce que j'avais la paix chez nous, il y avait des crises, là, ma mère se faisait internet au bout de champ, les flics venaient me chercher à l'école parce qu'elle venait me chercher à l'école en robe de chambre, fait que, bref, c'était fucké, là, tu sais, puis là, moi, j'étais bonne à l'école parce que c'est ça, je m'étais accrochée à l'école, puis là, je me disais, ça sonnait comme une école.
Ça sonnait comme Frederich.
Fait que là, c'est ça. Donc, je m'étais accrochée à l'école parce que là, au moins, si j'étais bonne, on me disait, t'es bonne, puis je savais c'était quoi ma place. Fait que l'école, ça, étrangement, ça a toujours compté pour moi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Donc, j'ai étudié longtemps, puis. Mais je suis restée pareille avec cette idée-là qu'il y avait toujours, je partais comme pas du bon pied quand même par rapport aux autres personnes. Il y avait toujours comme, j'ai eu longtemps des complexes d'infériorité bien gros, tu sais, par rapport aux autres. Je me disais, bon, bref, les autres ont commencé à lire à 7 ans, genre, tu sais, puis moi j'ai commencé à 17 ans, tu sais, puis les fautes d'orthographe, calvaire, qu'est-ce que j'en faisais, tu sais, puis... Oh mon Dieu, il y avait toujours un combat à l'intérieur de moi où j'avais l'impression que c'était pas ma place, tu sais, que c'était pas ma place. Puis, au bac, mon bac, c'était tellement douloureux, tu sais, que juste d'être dans la classe avec d'autres personnes. Tu sais, en littérature, les gens ont la faculté de la parole. Hein, les gens parlent beaucoup, les gens parlent, ils savent parler. Tu sais, c'est pas comme en mécanique, les gars vont parler même calice, tu sais. Là, mais en littérature, les gens savent parler, ils ont la possibilité de la. Tu sais, c'est facile, tu sais. Moi, je l'avais pas encore, cette facilité-là. Je l'ai pas encore, d'ailleurs, aujourd'hui, là. Fait que j'étais facilement impressionnée tout le temps. Fait que, donc, ça m'écrasait. Ça m'écrasait beaucoup, beaucoup. Ce qui a fait que j'ai foxé pratiquement tout mon bac. Moi, j'allais dans les tavernes, puis je lisais Bukowski. Je me disais, le vieux Chris, il a réussi. Moi aussi, je suis capable, tabarnak, tu sais. Fait que c'était vraiment ça. C'est ça qui m'aidait. C'est con, ça a l'air vulgaire, mais c'est vrai que c'était ça qui m'aidait. Puis les gros mots aussi peuvent faire partie de la littérature. Puis, en tout cas, moi, j'ai pas de mauvais mots et de bons mots, là, tu sais. En fait, tous les mots commencent par P, me tapent sur les nerfs en général. Mais sinon.
Comme père.
Ou plot. En tout cas, mais bref, c'est ça, on a toutes nos petites névroses. Moi, c'est moi qui commence par P. Mais là, il y avait ça, toute l'idée que je partais pas du bon pied. Puis. Attends un peu, peux-tu me reposer? C'était quoi dans l'affaire?
J'ai oublié d'info, je suis dedans.
Ah oui, c'est ça. Fait que là. Oui, c'est ça. Donc, durant ma maîtrise, moi, j'avais pas le discours universitaire. C'est pas que j'ai quelque chose contre l'universitaire, au contraire. Mes amis, vous êtes tous une bande. Sandrine, c'est une de mes amies. C'est tous une bande d'intello à côté de moi. Moi, j'ai l'impression d'être le bûcheron à côté d'elle. Mais bref, moi, je me sens bien. J'aime ça, les discours, ça m'épate. C'est comme, waouh, mon Dieu, ils ont pensé à ça. T'sais? Puis, donc, même à un point tel que durant ma maîtrise. Moi, j'avais du fun parce que je pouvais écrire mon livre. Là. J'avais l'impression que c'était ma place. Puis, mais mon directeur de maîtrise...
Oui, parce que faut dire Borderline, c'était ton mémoire de création.
Ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis mon directeur avait tellement peur que je lance tout le temps qu'il m'appelait pour me dire t'en fais pas, même si t'as pas le même discours que les autres, c'est ta place. T'es à ta place. T'es l'écrivaine. Lâche pas, tu sais, parce que il avait peur que je lâche parce que. Je parlais pas dans mes cours, j'étais gênée, bien gros gênée. Puis je suis bien gênée, c'est pour ça que j'aurais envie d'aller me cacher derrière. Je serais mieux derrière Mona Lisa là, pour faire la conférence. Mais fait que là, ah oui, c'est ça. Fait que là, ça m'amène à ma théorie. Ce que j'ai dit un jour à Sandrine, où on déprimait tous les deux. Puis bon, c'est que à chaque fois que je sors un livre, évidemment, bon, on s'en fait tout le temps. Hein, c'est pas évident, hein, tu sais. C'est comme s'ouvrir le ventre, puis donner ça à tout le monde, puis faites-en ce que vous voulez. Fait que c'est pas toujours facile. Puis un jour, je parlais avec un de mes ex-chums qui était un rocker, puis qui parlait, il dit son thé, lui. Fait que, vous voyez, genre, il est pire que moi. Mais bon, bref. Alors là, ce rocker-là, j'avais dit, oh, Jess, mon Dieu, je me sens pas bien. Le livre, puis tu dis, hey, c'est quoi cette affaire-là? Dis, coudonc, tu veux-tu une Lara Fabian, Nick Cave? Tu dis, Nick Cave, toi, tu sais, tu vas attirer tout le temps un petit peu de monde, puis ça va être tout le temps tes fans, mais tu vas persister. J'étais là, oh, moi, tu sais que tu me fais du bien. J'étais là. Fait que c'est ça. Fait que, d'où ma théorie, je suis pas une auteure pop, mais bon.
Mais c'est correct que t'es pas Lara Fabian.
Mais c'est ça!
On veut pas. T'as justement parlé, tu sais, je vais faire un lien.
Je sais pas si vous avez compris ma théorie de Lara Fabian. Elle est drôle, hein? Ah, oh, vous pouvez rire, hein?
Ça, c'est des universitaires, fait que ça. Mais, justement, t'as parlé de ton rocker. La musique, c'est très, très, très présent. D'ailleurs, je sais pas, tes personnages, tes narratrices sont toujours en train de mettre du Ministry à la planche, là.
Oui!
Mais, justement, je vais clore le chapitre écriture avec cette question-là. Tu fais beaucoup violence à tes objets d'écriture, donc ta famille, ta mémoire... tes amis, tes amants aussi parfois, mais tu fais aussi très violence à la langue, c'est-à-dire que tu vas, justement, tu parlais de niveau de langage, tantôt tu vas mélanger des niveaux de langage, tu vas faire des phrases très saccadées. C'est une des raisons pour lesquelles les Allemands t'aiment tellement, je suis certaine, là, sont toujours les premiers à traduire ces nouveaux romans, parce que cette idée-là de dire très rapidement, très saccadé. Puis, je me demandais à quel point, qu'est-ce que tu avais à nous dire justement sur ce souffle-là ou ton rythme d'écriture, puis avec la musique qui est tout le temps aussi comme, il y a tout le temps un peu une trame sonore de fond, là. On pourrait acheter presque la trame sonore, pas de Six Feet Under, mais de La Brèche, là.
Ah, j'aime tellement ça.
Puis,
wow.
On pourrait lire en écoutant la trame sonore.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée d'avoir.
Ah, c'est tellement beau comme
idée. T'en parlerais à ton éditeur.
Oui.
Mais justement, qu'est-ce que tu as à dire sur ton souffle, ton rythme dans l'écriture?
Mon Dieu. Ben, tantôt, c'est ça, je disais à Sandrina, entre autres, un jour, j'ai appris qu'il y avait une différence entre les romanciers et les écrivains. Les romanciers, ils vont se servir de l'écriture d'une façon utilitaire pour raconter une histoire, alors que moi, la langue, ça a autant, sinon plus, d'importance même que l'histoire que je vais raconter. Fait que je travaille beaucoup, beaucoup la langue, même si, tantôt, excusez, hein, je lis pas tellement bien devant le monde, je suis super gênée, fait que j'ai une tendance à lire vite, puis... Je sais que je ne suis pas ma meilleure lectrice, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, c'est ça. Fait que quand je lis, ben moi, quand je le lis pour moi tout seul, là, dans mon coin, je le vois, je sais que ça rythme, là, tu sais, là. Mais je ne suis pas capable de le rendre devant le monde parce que, tu sais, devant le miroir, il y a une différence entre quand il y a du monde qui te regarde et qui fait « Ah, regarde, c'est pas bon ce mot-là. » Fait que moi, je suis bien gros là-dedans, tu sais. Attends un peu, c'est... Attends, c'est Patricia, hein, c'est ça?
Est-ce que c'est à moi?
Oui? Non, c'est ah non, OK. On se connaît, hein? OK, c'est ça. OK, parce que tantôt, j'arrivais pas à mettre le nom dessus, là. OK, bon.
C'est réglé.
Moi, je suis bien gros dérangée. J'ai une capacité de concentration qui est très, très limitée. Quand je travaille, là, je suis comme... J'ai toujours appelé par l'extérieur. Donc, OK. Fait que c'est ça. Donc, je travaille beaucoup en il faut que ça rythme. Quand j'écris, il faut qu'il y ait du... qu'il y ait une chanson, hein. Ça fasse comme du rock littéraire. C'est ça, il y a un journaliste au Soleil qui avait dit ça, je faisais du rock littéraire. Fait qu'il faut que ça rock, hein. Tu sais, ben gros, je suis ben gros dans le rock. Mais maintenant, j'écoute de moins en moins de musique parce que mon mari, c'est un ex-clown, puis il écoute que de la musique de cirque. J'y arrive pas. Quand je veux mettre un disque, il me dit, je vais mettre le mien après, puis je suis déprimée d'avance.
Bon, écoute, on va passer à un autre sujet dans ce cas-là, ce qui va être aussi déprimant, mais quand même, dans un autre registre, on va parler de la folie un peu.
OK.
Sans mieux que de la musique de cirque, ça passe mieux.
Mais ça fait un an que j'écoute presque plus de musique à cause de mon mari qui écoute la musique de cirque, mais je suis comme... Je suis assez cœurée, moi, Allegria, y en fait. Ça me déprime, en tout cas.
OK, parlons de folie et de toute fiction un petit peu. OK. Dans la lettre, dans un HLM, t'écris, dans une de tes lettres, qui, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, il y a des parties fictionnalisées, très romancées, qui est le récit qui est sur Léa, une jeune peintre qui essaie de percer, mais qui a une mère folle. Puis tout le récit sur Léa est entrecoupé de lettres que t'assumes, que t'endosses comme étant des lettres que t'écris à ta mère. Donc, contrairement aux autres romans, on en reparlera un petit peu plus longuement de l'autofiction, vers la fin, plus longuement de l'autofiction, mais contrairement aux autres romans où il y a vraiment un glissement constant ou qui se contamine constamment en autobiographie et fiction, ici, c'est un peu plus facile, en tout cas, de les diviser avec les lettres. Donc, il y a plein de choses assez lourdes et qui se disent dans les lettres, donc je vais assez les citer ce soir. Dans une de tes lettres, dans La Lune dans un HLM, tu dis... Mon histoire familiale est tellement berlificotée, c'est à en devenir dingue, c'est à en devenir auto-fictionnaire et à s'amuser à perdre tout le monde dans le labyrinthe de mon passé. Moi, j'ai toujours pensé que pour toi, l'auto-fiction, c'était une manifestation de la résilience par rapport à la folie familiale de la grand-mère et de la mère. Mais là, tu fais vraiment une équation là, où devenir dingue, devenir auto-fictionnaire, est-ce que c'est être folle d'être auto-fictionnaire ou...
Non.
C'est pas un à l'autre.
Non, c'est une manière de conjuguer avec la réalité. Quand j'avais fait ma maîtrise, c'est ça, il y avait Dubrovsky là, qui racontait que, c'est ça, dans l'existence, il veut raconter une histoire, mais il y a des trous, fait que les trous, il va les remplir avec de la fiction. Fait que c'est comme ça, je le voyais. Fait que c'est donc moi j'étais bercée avec, tu sais, dans la folie, sachant toujours pas c'était vrai ou pas vrai ce qui m'arrivait, puis tout, puis tu sais, genre pas savoir mon passé. Fait que c'était facile pour moi après ça de tomber dans l'autofiction. Puis en passant, moi je suis pas une, Je suis pas la grosse... comment on peut dire? Tu sais, celle qui va partir en guerre pour... Ah, il y a l'autofiction, puis ça compte, puis... Tu sais, je suis pas là-dedans dans ce discours-là.
Bon, un peu, ouais.
Moi, quand j'ai fait de l'autofiction, au départ, en fait, je savais même pas que je faisais l'autofiction quand j'ai commencé à écrire. Je voulais juste m'utiliser comme personnage. J'aimais ça, le principe. C'était juste ça. Je voulais m'utiliser comme personnage. Puis, si par la suite, quand je suis rentrée à la maîtrise, mon directeur de maîtrise m'a dit « Ah, mais c'est de l'autofiction que tu fais, tu sais. » Il dit « Tu peux étudier ça en même temps? » Parce qu'il y avait un appareil réflexif à faire. Bon, OK. OK, je vais faire l'autofiction. Fait que là, après ça, quand mon roman a été publié, ben là, il y a les journalistes. Fait que là, je répondais aux questions. Puis là, comme j'avais un discours de préparer, parce que j'avais fait quand même 2 ans, 1 an et demi là-dessus, je me dis « OK, je peux en parler, tu sais. » Fait que j'avais l'air intelligente. Quand j'en parlais de l'autofiction, je pouvais tout décrire cette chose-là, tu sais. Mais qui part à l'intérieur de moi, je m'en fous, là, tu sais. C'est un mélange roman, vrai, pas vrai, tu sais. C'est un peu comme... en fait, c'est comme tous les écrivains. Là, Mistral, on ne lui demande pas sur l'autofiction que tu fais, alors qu'il met même le mot Christian, là, tu sais, là, mais qui va aller dire tu fais de l'autofiction quand on sait qu'il mesure ses pieds 4, il peut te casser la gueule, tu sais, fait que t'oses pas trop, tu sais, fait que c'est ça.
Pourquoi tes héroïnes sont toujours dans la vingtaine? Je dirais pas ton âge, mais t'es dans la trentaine.
Avancée. Non, tu peux dire mon âge. c'est très avancé.
Tes héroïnes sont toujours dans la vingtaine. Oh. Donc, pourquoi?
OK, ben moi, il y avait la fin de... Moi, c'est comme une trilogie, ce que j'ai fait. Mes 3 premiers, c'est une trilogie. Marie Laberge a fait sa trisomie du bonheur. Moi, j'ai fait ma trisomie du malheur en version mongole. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment... C'était tout exorcisé des bouts de ma vie qui a... C'est vraiment un livre sur tout ce qui a... Toute l'enfance avalée de travers qui est coincée dans la gorge comme un chip. Tu sais, avalée de travers, c'est vraiment ça. Ces livres-là sont là-dessus. Là, dorénavant, ça ne sera plus là-dessus. Et plus jamais vous allez entendre parler de ma mère, c'est fini. C'est tout ça, c'est fini, là. Là, je suis en paix, tu sais.
C'est parce que c'est fini dans la trentaine que tes héroïnes...
Non, non.
...sont jamais dans la trentaine. Qu'est-ce qu'il y a dans la vingtaine?
Qu'est-ce qu'il y a dans la...
On le sait, ce qu'il y a.
Ben, c'est là où j'ai débordé. C'est là où j'étais plus tenable, tu sais. Là, ça a stigmatisé, là. Oui. Ça... Puis c'est là aussi, dans la vingtaine, où tout est possible encore. Tu sais, parce que... Il me semble que ça aurait été plus difficile de faire la même chose avec des femmes de 50 ans, tu sais. Déjà, je connais pas ça, là, mais... j'ai pas encore 50, je sais pas c'est quoi, là, mais... tu sais, de... Ah, je sais pas comment l'expliquer, mais... Tu sais, où tout est possible encore dans la vingtaine, de la vie devant toi, là, tu sais, là. Même là, j'ai l'impression que j'ai plus la vie devant moi, là, tu sais, là. Même si j'ai 14 ans et demi dans ma tête, là, mais... Tu sais, c'est... Tu comprends ce que oui. Je veux dire? Je réponds-tu? OK.
Tout revient. On va parler de chambre d'hôtel un petit peu.
Oh, cochonne.
C'est pas moi qui les ai écrits. Assume. La brèche et Borderline se commencent toutes les deux avec... Bon, en tout cas, Borderline prend littéralement place dans une chambre d'hôtel, alors que La brèche commence avec une allusion à une nuit passée entre Émilie Kiki et son professeur de littérature dans une chambre d'hôtel. Puis, je me demande pourquoi, dans tes 2 premiers bouquins, t'as senti le besoin d'emblée de placer tes héroïnes dans ce décor-là. Parce que, nécessairement, ça oriente la lecture. Dès le début, on les voit, on les devine, on nous les raconte dans une chambre d'hôtel, surtout dans Borderline, où on la prend dans l'acte.
Ouais.
Pourquoi choisir de commencer ces 2 premiers livres-là dans ce décor-là?
Parce que la chambre d'hôtel, c'est une pièce de théâtre. C'est un lieu où tout est possible. C'est un lieu qui n'existe pas vraiment. Là, tu sais, tu vas là, tout est possible pour une nuit, puis ensuite, il n'y aura pas de traces. Tu sais, il y a une femme de ménage qui va passer derrière toi, là, puis qui va effacer le paquebot de Richard Desjardins, puis il n'y aura plus rien, tu sais. C'est vraiment ça, là, tu sais. Fait que j'aimais l'idée du théâtre où la game se joue entre 2 personnes. Les huis clos m'ont toujours fascinée. Tu sais, entre 2 personnes enfermées, où tout est possible. Moi, mon personnage préféré de tous les temps, ça demeure... vous avez vu sûrement L'insoutenable légèreté de l'être. Mais moi, je dis vu, là, parce que moi, c'est vraiment au cinéma où elle m'a plu le plus. Plus que même dans le roman de Condéra, là, c'est Lena Olin quand elle fait... quand elle joue... pas Sandrina, Sabina. Pas Sandrina, la pauvre petite, aujourd'hui, elle disait que... Oh, les gens escamotent mon nom. Fait que voilà. Fait que c'est mon personnage préféré de tous les temps, c'est Sabina, là, puis... Et c'est un personnage de chambre d'hôtel, tu sais, où son amant se présente un soir, puis... c'est ça, elle rencontre un prof d'université, puis là, ils ont une relation ensemble, puis le jour où il débarque chez elle en lui disant que tout est possible, durant la nuit, elle disparaît, elle s'envole, elle disparaît pour un autre endroit. Là, elle peut pas s'engager. J'aime l'idée du huis clos puis de l'endroit qui n'existe pas.
Dont on peut se détacher facilement aussi un peu.
Oui.
Quand la porte est fermée, la scène est terminée.
Ouais, et quand c'est pas ces endroits-là, les chambres d'hôtel, j'adore encore aujourd'hui les chambres d'hôtel. Hein. J'aime tellement ça, là, dormir à l'hôtel.
Parce qu'on n'a pas besoin de faire le ménage.
Aussi, tu sais. Mais autre endroit, sinon, c'est les lofts, c'est les lieux anti-famille, tu sais, c'est aussi, on dirait que tout est possible encore, là, tu sais, c'est comme des lieux théâtraux, c'est ça, j'aime ça. Puis en plus, je l'ai bien conjugué, fait que...
c'est encore plus satisfaisant. On a parlé de chambre d'hôtel, on va parler de lit, un peu. J'ai un petit peu prise avec le début des romans, là, en ce moment. Je vais citer le début de tes trois romans, en fait. Dans Borderline, la scène qui nous est écrite, une des premières phrases du roman, c'est Cici, la narratrice qui parle, qui est couchée dans un lit et qui dit « Mes deux mains se tiennent en dessous de mes seins comme les morts dans leur cercueil. D'ailleurs, j'aurais l'air d'une morte dans son cercueil si ce n'était mes jambes. » Emily Kiki, elle, va parler au tout début des draps blancs de son lit mort. Puis, la lune dans un HLM s'ouvre sur une lettre, mais la partie du récit consacrée à Léa va commencer dans un salon funéraire où la grand-mère est exposée. Et le récit commence avec « Léa est debout non loin d'un cercueil qui, croit-elle, semble attendre le moment propice pour la pilonner. » Un petit peu plus loin. « Léa se dit qu'on a remplacé tout l'intérieur du corps de la vieille par de la matière synthétique ou peut-être de la plume d'oie, ce qui m'a fait penser encore une fois à de l'édredon. » Donc, tu commences toujours tes bouquins avec ce rapport-là entre le lit et le cercueil, d'une manière ou d'une autre. Ça survient. Pourquoi cette correspondance-là? Puis pourquoi commencer tes livres comme ça aussi?
Ah, je sais pas. Ah, c'est drôle, ça me fait penser à Jacques Dutronc qui dit « L'endroit où on le trouve le plus de morts, c'est le lit, c'est l'endroit le plus dangereux. » C'est vrai. Puis tantôt, moi, je suis en train de préparer une télésérie, puis tantôt, je me retapais les La vie, la vie, juste pour comprendre la dynamique des scénarios, comment ça fonctionne. Puis il y avait Machel Imouchik qui était avec Vincent, qui le gars qui travaillait dans un club vidéo dans La vie, la vie. Ils sont devant le lit. Puis ils regardent le lit puis ils disent oh, « Tout est possible dans le lit. On est protégé. Rien ne peut nous arriver dans un lit. » Puis ciel, qu'est-ce que je suis d'accord avec ça. On dirait que rien ne peut nous arriver de mal dans un lit.
Mais pourquoi lien avec le cercueil dans ce cas-là?
Je ne sais pas. Il doit avoir Eros et Thanatos, là, tu sais, là. Hey, j'ai sorti une phrase intello.
C'était la place.
Mais il doit y avoir de ça, là, tu sais, l'amour et la mort, là, tu sais, là, c'est collé ensemble, l'amour, la haine, la mort, là, tu sais, c'est des pulsions très fortes, hein, tu sais, fait que il doit y avoir de ça là-dedans. Hein.
Parlons de double un peu.
De double. OK.
Il y a beaucoup, parce que j'ai lu tes trois livres, je les ai lus quand ils sont sortis, puis là, je les ai lus comme de manière
très condensée.
Même quand ils n'étaient pas sortis, je les ai lus. Puis là, je les ai lus de manière condensée, ce qui fait que c'était très facile de voir les rapprochements. Il y a beaucoup de dédoublements dans tes livres. Dans Borderline, un chapitre est consacré à Cici, la narratrice, quand elle est enfant, ou encore des chapitres consacrés à Cici, la femme adulte. Donc, il y a toujours ce dédoublement-là de la femme et de l'enfant. Dans La Lune, dans un HLM, c'est très évident. Tu as le récit sur Léa, qui est le récit plus fictif, avec les lettres, donc les parties très autobiographiques. Donc, on essaye constamment entre fiction et autobiographie. Mais ça m'a frappé le plus dans La Brèche. Dans la mesure où les dédoublements ne se trouvent pas nécessairement dans la forme du récit, mais ça se trouve constamment. Il y a des petites traces partout. Par exemple, les noms des deux personnages principaux, il y a toujours des doubles cas. Émilie Kiki, par exemple, qui est amoureuse de Chekika, qui est un spécialiste de Kafka. Mm-hmm. Donc, il y a ces cas-là...
Michael,
c'est vrai. Il y a toujours ces cas-là. Il y a aussi Émilie Kiki qui va chercher des doubles. Par exemple, elle va tomber amoureuse de sa fille, une jeune fille qui est à son image. Elle dit que c'est son reflet narcissique, etc. Puis, Émilie Kiki va accoucher de deux jumelles à la fin, qui sont des doubles l'une de l'autre, mais dans lesquelles aussi Émilie Kiki va se voir... dans ces deux petites filles-là, comme dans un miroir. Puis j'aimerais ça savoir pourquoi Emily Kiki a tellement besoin de se regarder dans le miroir, pourquoi elle a tellement besoin de double.
Ah, je sais pas. Mais là, c'est parce que je t'ai écouté. Il y a juste eu deux, trois petites affaires qui étaient mélangées avec Borderline. Fait que c'est ça. Oui, parce que sa fille, c'est dans Borderline. Ça,
fait c'est
que,
vrai, tu
oui,
vois?
Oui, fait que...
Je les ai vraiment look sur coup.
Ouais, oui.
Mais les doubles sont partout, constamment.
Ah! Mon Dieu, je sais pas pourquoi.
Comme si c'est enfant, si c'est adulte tout le temps, on n'a pas.
Je sais pas pourquoi les doubles à ce point-là.
C'est pas obligé d'avoir une réponse.
Ah, merci! Je me force, mon Dieu. Je me sentais comme à Radio-Canada. Je voulais avoir. Mais non, je sais pas pourquoi autant de doubles. Je sais pas. On m'a déjà posé la question, mais je sais pas pourquoi autant de doubles.
T'es pas obligé d'avoir une réponse.
Ah,
non. On parlait de filiation dans ce cas-là, littéraire.
Je sais pas pourquoi autant de filiation.
Bon, ben on va clore la soirée. Non, non, mais dans la Lune, dans un HLM, tu parles de ta filiation, de ton arbre gynécologique. Donc, ta filiation matrilinéaire, il n'y a pas vraiment d'homme.
Non.
Dans ton histoire familiale.
D'où gynécologique.
Exactement. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en a ta filiation littéraire, parce que non seulement...
Qui j'aime, c'est quoi
ta famille littéraire? Parce que tu disais il y a quelque temps de ça que Marguerite Duras, c'est comme ta mère, ou en tout cas, tu joues beaucoup avec...
Non, c'est Christine Angot.
Christine Angot, c'est ma
tante.
Mais puis j'aimerais savoir justement, qu'est-ce qu'il y en a de ta famille littéraire, ceux que t'aimes lire, ceux qui t'influencent.
Ben, je dirais premièrement, ce qui m'influence le plus quand j'écris, c'est la musique, sauf la musique de cirque. Mais la musique, j'adore la musique, moi, pour la rythmique puis tout. Là, tu sais, tu mets des headphones, puis là, ça y est, ça part en boîte. Je suis en train de devenir sourde présentement. J'en ai tellement écouté, que, oh boy! Fait que c'est vraiment la rythmique, la douleur que dans les voix parfois. Mon rêve, moi, ça serait de réussir à faire un livre comme une chanson de Radiohead quasiment. Tu sais, quand t'écoutes, là, t'as la cage thoracique qui saute, puis fait oui! Oui, j'ai compris, tu sais, fait que c'est vraiment ça, j'aimerais tellement ça, là, tu sais, là. Fait que, donc, en premier, ça vient de la musique, puis c'est beaucoup de la musique des prémices, là, tu sais, je suis bien gros dans le Nick Cave, justement, The Stars Under My Button, Radiohead, c'est rock, mais c'est plus rock autant comme avant. Avant, je pouvais triper sur des affaires très heavy metal, Tool, Ministry, des affaires comme ça, je vieillis, hein. Fait que là, je suis rendue dans un rock plus... Puis même encore, je mets du Gotham Project parce que je fais beaucoup de souper, puis il faut que je plaise à tout le monde. Fait que c'est ça, mais bon. Puis, ensuite, d'un point de vue littéraire, c'est sûr que le premier qui m'a marqué, qui m'a chamboulé, qui m'a jeté à terre, là, puis qui a dit « oui, c'est ça », c'était Michel Tremblay. Étrangement, c'était Michel Tremblay, mon premier, qui m'a dit « oui, vas-y ». C'est lui qui m'a montré qu'on pouvait écrire sur une langue qui n'était pas... trop radio-canadienne, vous pouvez comprendre ce que je veux dire, trop parfaite, puis fait que c'est ça, fait que ça m'a ouh, waouh, tu sais, fait que ça m'a fait du bien. Ensuite, ben c'est ça, moi j'ai commencé à lire très tard, j'ai commencé à 17 ans, puis à ce moment-là, 17 ans très tard, là, pas le 17 ans début, 17 ans vers la fin plutôt, là, puis là c'était Michel Tremblay, puis tout de suite après, ben en fait, moi c'était des rages, hein, tout Michel Tremblay, tout Dostoïevski, tout Simone de Beauvoir, tout, je fonctionnais partout comme ça, de même, puis ceux qui m'ont... ceux-là me disaient, oui, faut que t'écrives. Ah oui, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Je vais rajouter une parenthèse par rapport à tantôt, le Nick Cave et puis Lara Fabian et puis, bon, toutes ces bullshit-là. Mais il y avait l'idée de... quand j'ai fait ma maîtrise, je me rappelle, il y avait beaucoup d'étudiants qui disaient, je suis un écrivain. OK. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour le dire.
Non, dis-le.
Mais moi, là...
ça fait sortir le méchant.
Oui, OK. Je suis un écrivain. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, moi, il y a analyser, ça va, signifiant, signifier, mais écrivain. Tu sais, il y a divan dedans. C'est pas drôle, tu sais. Mais ça, c'est drôle, ça me fatiguait. Puis, ça a sonné des cloches. On se fait des petites théories, hein, quand on écoute le monde, puis tout, là, tu sais, là, puis je suis pas bien du genre à caler le monde, plutôt à les encourager, genre, qu'est-ce qui marche pas, puis pourquoi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que souvent, les gens qui m'entouraient étaient beaucoup écrasés par ce qu'ils avaient lu, par autant, Céline, Marguerite Duras, Dostoïevski, puis à la maîtrise, de temps en temps, je sais pas, moi je viens du camp, peut-être c'est différent ailleurs, je sais pas, mais ils ont une tendance à magnifier l'écrivain, à dire que l'écrivain il est plus gros que nature, qu'il est comme, wow, tu sais, puis c'est tellement pas ça, calisse que c'est pas ça. Fait que c'est tellement pas du monde supérieur, ni rien, là, il y a pas de... C'est pas que l'écrivain a compris quelque chose de plus. À la vie, là, il n'y en a pas de ça. Il n'y en a pas en tout, là, de ça. Là. Fait que c'est ça, fait que ça. Puis je me suis aperçue que les gens qui disaient je suis un écrivain, là, ils étaient écrasés justement par tous ceux qu'ils avaient lus. Alors que il faut vraiment juste dire OK, il y a tout ça qui s'est fait, mais bon, j'ai ma voix, puis j'ai mon. ma petite affaire à dire qui peut parler à quelque personne. Là, puis c'est vraiment ça. Puis moi, je me s'accrochais à cette petite affaire-là que oui, bon, j'ai ma voix, puis je peux parler à quelque personne. Puis bon, ben c'est ça, là. Fait que pour en revenir à où j'étais rendue...
Ta réponse, OK, c'est ça.
Mes influences littéraires. Ouais,
mais ça a répondu pas mal ce que tu as dit dans la mesure où...
C'est ça, c'est que je me suis pas fait écraser puis, par les influences littéraires. Oui, j'ai tout lu ces gens-là, puis je les ai super bien aimés, super bien appréciés, puis tout ça, mais j'étais différente d'eux. Ils avaient raison jusqu'à raison pour telle chose jusqu'à un certain niveau. C'est juste un point de vue qui m'amenait une ouverture, une façon de faire les choses qui m'a plu beaucoup, beaucoup. Puis ça a stoppé quelque part. Ceux qui se sont trouvés plus proches de moi, ben évidemment, il y a Régent Duchamp qui, moi, m'a montré, je l'ai longtemps dit, c'était comme mon Martha Stewart de l'âme, là, parce qu'il m'apprenait non seulement à écrire, mais aussi à penser, à être dans la vie, à tout, là, tu sais, faut le faire, hein. Régent Duchamp m'apprend à vivre, là, tu sais, là. C'est comme du psychopop pour moi. Bien sûr, c'est comme du psychopop, oui.
C'est comme Dr. Phil.
Oui, c'est
mais
mon
bien, bien écrit.
C'est ça, c'est mon Dr. Phil, moi. Fait que c'est ça. Puis maintenant, je lis beaucoup. Ben, j'ai lu beaucoup de polars. Moi, je reviens de la Suisse, où j'ai vécu plus d'un an en Suisse, enfermée pas mal, dans le même village où a vécu Hubert Aquin. En fait, j'habitais à la rue, juste à côté, je suis posée même, à côté du 52 Tatedois. C'est ça. Il habitait juste à la rue, à côté de chez moi, je comprends pourquoi il s'est suicidé.
Elle m'appelle comme déprimée de Suisse, puis elle me dit ça.
C'était comme, en fait, ça ressemble à un Magog suisse où on habitait, là, lui aussi, il a vécu là il y a 20 ans. Magog suisse. Fait que c'est ça, fait que
Hubert... Fait que t'as lu beaucoup de polars.
Oui, beaucoup. Beaucoup, ça donne des idées d'assassinat en Suisse. C'est vrai, j'ai lu beaucoup de polars. Ça m'a beaucoup... Ben, j'aime beaucoup lire... Parce que j'ai appris, enfin, c'est intéressant pour moi, les polars, hein. J'avais pas vraiment lu, mais j'aime beaucoup, beaucoup cet univers-là. Ça fait un bien fou, hein. C'est vraiment du divertissement, puis waouh! Pour une fois, j'étais pas arrêtée à comment il l'écrit, puis tu sais, ah oui, il utilisait ça de même, ah oui, puis il a mis son COD là, pas là, tu sais. Fait que là, au moins, là, c'est comme waouh! Tu sais, là, c'est... Oh, tu veux savoir qui le méchant, tu sais.
T'es dans l'histoire plus que dans le...
Oui, puis ça m'a fait du bien. Puis sinon, il y a Lucha Estebaria, que j'aime beaucoup, une espagnole, je sais pas si ça vous dit de quoi. Elle écrit Prozac, Amour et autres curiosité. Elle est... Oh boy! Je sais qu'il y a des profs qui m'enseignent en même temps qu'elle. Ils disent qu'on fait partie de la même famille. Je suis bien fière parce que vraiment...
La même famille,
oui. Je suis bien contente, là. Puis sinon, il y en a un autre que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est Régis Geoffrey. Parce que je viens de voir sa photo. On dansait à la dîner, là. Il y a sa photo, là. Puis je vais demander au monsieur s'il ne veut pas me la donner tantôt. le Régis Geoffrey. Waouh! Waouh! Oui, oui, oui. Mais en même temps, il me déprime aussi. C'est un auteur déprimiste, moi, je trouve, là. Il peut rencontrer 10 fois la... En fait, il a fait un roman fabuleux qui s'appelle Univers, l'univers. OK, c'est sur 600 pages. Puis c'est l'histoire d'une femme qui fait cuire son gigot d'agneau. C'est bon, faut le faire, hein? Il a réussi 600 pages là-dessus. Waouh! Ça, c'est de l'écriture.
Justement, c'est un peu étrange, je veux dire. Justement, cette rupture-là que tu fais entre la brèche, la jeune fille qui veut devenir écrivain, ou en tout cas qui est littéraire, etc., puis la Léa de La Lune en HLM, qui est une peintre, pourquoi justement t'as passé... Pourquoi t'as eu ce besoin-là ou cette envie-là de passer de... Parce que, est-ce que ça a vraiment rapport avec ta mère, les impatients, son désir de faire dessiner, ou c'est vraiment plus par rapport à toi un besoin de rompre un peu avec
Ah non,
un univers littéraire un
peu? Je me suis dit non, je vais en faire quelqu'un de plus ailleurs, tu sais, dans une autre forme d'art, parce que en écriture, des écrivains qui écrivent sur l'écriture astique, il y en a, là, tu sais, là, puis je trouve que ça fait trop se tourner alentour du nombre à un moment, puis je l'avais déjà fait, je me suis dit, de la marde, je suis rendue ailleurs. Fait que là, c'est ça, donc je me suis dit, OK, tiens, ce qui était plus proche de moi, c'était la musique, mais ça ne me tentait pas d'écrire là-dessus. Ça me tentait juste pas, tu sais, comme... Je devais avoir allégrie, hein? Comme, oh non! Fait que là, je me suis dit, OK, la peinture, puis c'est quand je voulais faire un roman sur ma mère. Fait que ma mère, elle peint, puis elle est bonne, elle est super bonne. Puis ma mère, je l'avais inscrite aux Impatients. Puis elle adorait ça, elle est là. Fait que j'avais fait un papier pour l'actualité sur les Impatients. Fait que il y avait toute cette affaire-là où j'étais allée, puis j'avais vu qu'est-ce qu'on pouvait faire là-bas. Fait qu'il y avait l'idée d'écrire sur les Impatients. Donc, c'est ça.
On va parler de la mère, justement. On va essayer de plonger, pour conclure, un peu dans l'autofiction. En tout cas, dans la question de l'autofiction. Dans La Lune dans un HLM, donc, comme on l'a dit, c'est un récit qui est haché par des lettres que tu as écrites à ta mère, en sachant très bien qu'elle ne les lirait probablement pas. Pourquoi tu as ressenti ce besoin-là de t'adresser à ta mère, mais de nous prendre comme témoin, nous, tes lecteurs? Parce que la personne à qui tu t'adresses, en tout cas, tu vas certainement t'arranger pour qu'on ne pas qu'elle les lise.
Non, non, faut pas qu'elle lise.
Pourquoi justement nous prendre à témoin, mais ce n'est pas vraiment à nous que tu t'adresses de toute façon? Pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est tellement mon questionnement, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai une façon de laver mon linge sale en famille pour me libérer qui est ça. T'sais. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Quand moi, j'écris sur des choses qui me font mal. Fait que dans la vie, quand on me rencontre, il faut mieux s'arranger pour me faire du bien, en général. C'est pas compliqué, je suis très gentille dans la vie. Mais ce qui me heurte, j'écris là-dessus parce que je suis obsédée par ça. Je deviens comme du toc quasiment, là, tu sais, là. Machin compulsif, là, tu sais, je suis... c'est ça, là, tu sais. Fait que j'arrête pas d'y penser, c'est constant. Fait que là, c'était... je veux pas que... ma mère vient juste de savoir que j'ai écrit un livre. Elle le savait pas. Elle l'a appris durant le salon du livre. Ils ont parlé de mon livre à Salut Bonjour. Ça m'a pas mis de bonne humeur. Elle m'a appelé à 9h-10, me dire « Hein, t'as sorti un livre? » Oh, Colin, qu'est-ce que j'aime pas ça. Puis là, ça fait une semaine, là, j'arrête pas de l'appeler à tous les jours, m'assurer qu'elle l'a pas lu. Puis j'ai dit, maman, lis-le pas, ça donnerait rien. Puis, tu sais, c'est un roman après tout. Puis j'ai écrit juste sur ta maladie, pas sur toi complétée, pas toute ta maladie. Puis là, blablabla. Puis j'explique tout parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment ça. J'ai écrit juste sur la partie malade de ma mère. Ma mère, elle est pas juste ça. Elle est plein de choses. Mais le roman veut qu'on écrive sur. Il y a une certaine logique au roman. On peut pas faire un personnage puis le reprendre, le récupérer puis dire ah oui, il était spectaculaire à telle page. Puis ça marche pas de même. Il y a une logique qu'il faut garder. Fait que c'est ça. Fait que peut-être je trouverai un autre moyen de la récupérer par la suite. Je sais pas, mais là pour l'instant. Puis je veux plus écrire sur elle de toute façon. Je la récupérerai ailleurs. De toute façon, je m'exprime pas bien, là, mais c'est quelque chose qui me touche chaque jour. Là, c'est pas guéri, hein, cette affaire-là. C'est pas guéri. C'est tellement douloureux, là, cette affaire-là. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas.
Mais tu dis que tu n'écriras plus sur la mer, mais toutes les fois où tu as écrit sur la mer, c'est impossible de ne pas l'avoir dans l'écriture autrement qu'à travers le filtre de la folie.
Ouais.
Vrai ou... C'est vrai, parce que ça reprend un peu ce que tu dis dans la mesure où tu es... Ce qui l'a défini comme... Ce qui définit la mère comme personnage là, dans tes romans, c'est dans tes autofictions. Bon, il est marqué roman, hein, c'est le petit. Je dis roman parce que c'est l'appellation générique que Boréal met dessus. Mais la mère n'est présentée qu'à travers que par le biais de la folie constamment.
Ben, c'est comme si en fait elle arrivait et elle avait les cheveux blonds. C'est facile à décrire. C'est vraiment ça, c'est frappant, ça saute aux yeux. Puis ma mère, des fois, je me dis, OK, elle est normale, elle est comme toutes les autres mamans, mais finalement, elle me sort à la fin de la journée qu'elle a vu une coquerelle géante. Fait que ça fait comme, OK, non, c'est pas réparé. Fait que c'est ça. Puis bon, elle s'obstine à avoir tout le temps le même psychiatre. En fait, je sais pas exactement, je sais plus. Depuis récemment, je sais plus quelle maladie mentale est là. C'est étrange, hein, de pas savoir quelle maladie mentale a sa mère, là, tu sais, là. Elle était diagnostiquée maniaco-dépressive, elle était diagnostiquée... Alors, quand j'étais petite, on me disait, dérange-la pas, fait des dépressions, elle a besoin de repos. Après ça, on a dit qu'elle était schizophrène affective. Puis là, on me dit qu'elle est bipolaire avec hallucination. OK. Elle aime beaucoup son psychiatre. Elle dit que même que c'est son frère, sauf que c'est un Algérien. Fait que je sais pas quoi penser, mais elle l'aime. Fait que c'est ça, fait que je suis à cet étape-là avec maman, je sais pas. Mais bon, je suis tout le temps là pour la seconder, l'appuyer dans tout ce qui se passe, là, t'sais, m'assurer qu'elle prend ses pilules. Puis tout. C'est difficile hein, de d'écrire sur un... en fait, je la vois pas comme « Ah, oh, sujet intéressant, écrivons là-dessus ». C'est pas comme ça, hein, c'est plus... c'est tellement demandant, tellement... Tout le temps comme ça, là. À tous les jours, tu peux pas te reposer. « Oh, le téléphone sonne! OK! » Il faut que tu sois « Oh, je me réveille! » Fait qu'il n'y a pas de repos psychique à ça. Hey, j'ai 37 ans, moi, ça me dérange pas de cacher mon âge. Là, pas de cacher mon âge, mais de dire mon âge. J'ai 37 ans, puis je sais toujours pas si je veux des enfants ni rien. Je suis rendue pas ma limite, hein, tu sais. Fait que je porte ma mère tout le temps. Fait que...
Tu trouves pas que l'autofiction, c'est un genre un peu dangereux? Dans la mesure où les gens qui te lisent sont toujours en train d'essayer de voir juste, ben, de voir où est le vrai, où est le travailler, où est le romancer, où est le mensonge, etc. Mais comment ça se passe dans les médias? Parce que justement, tu parlais de « Salut, bonjour » tantôt, bon, blablabla. Puis quand tu parles de tes romans, tu parles toujours de toi aussi, parce que tu le dis, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Comment ça se passe dans les médias quand tu parles de tes livres, mais que dans le fond, tu parles de toi? Parce que les journalistes qui font des entrevues avec toi, c'est tes lecteurs aussi.
Ouais.
Puis nécessairement, ça m'étonnerait énormément qu'ils n'essaient pas de rentrer. C'est plus fort que nous, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'essayer de trouver ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est une incitation à ça. Comment ça se passe?
Il y a plusieurs points. À date, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Ça m'est arrivé juste une mauvaise expérience récemment. Mais sinon, tout s'est passé bien. Il faut dire que je suis média moi-même. Fait que dans ce temps-là, il y a je sais comment il fonctionne. On sait comment on se connaît en dehors aussi. Fait que, donc, ça se passe très, très bien. Il y a eu beaucoup de respect, puis en plus, moi, je m'assume quand même pas pire, hein, tu sais, fait que je joue pas de game, tu sais, fait que ça paraît, tu sais, d'emblée que je joue pas de game, puis je suis assez moi-même, fait que dans ce temps-là, ils essaient pas de percer la petite bébite, c'est comme, OK, je peux te dire jusqu'à tel niveau, là, on arrête, parce que bon, récemment, j'ai connu une mauvaise expérience, parce que j'ai coupé ma campagne de promo pour ce livre-là à moitié, parce que j'en pouvais plus, ça tombait pas dans la bonne semaine quand cette femme-là est arrivée, parce que ça a annulé tout le restant, j'étais juste plus capable. Il y a une journaliste à Radio-Canada, en fait une chercheuse, qui a voulu savoir, qui a appelé mon mari, puis qui lui a demandé si ça arrivait que ça allait mal dans notre couple parce que ma mère était folle. Là, j'ai trouvé ça, OK, là, ça va un petit peu trop loin. Là, ça débordait. Là, tu sais, là, c'était... tout est bien assumé, je peux aller jusqu'à un certain niveau, mais à un moment, c'est comme... Non, je ne donne rien. Dépassons pas, là, tu sais. Fait que c'était ma seule mauvaise expérience. Sinon, en général, j'ai pas de problème, tu sais. Puis, bon, il y a une partie de moi qui est très, très, très assumée, tu sais. Fait que je peux bien dire, OK, bon, si on peut aller jusque-là, après ça, ça ne donne rien. Fait que... Mais ça a bien été. Je pense pas être la plus maltraitée. Non, je pense pas. Fait que ça va popper, côté média.
Je vais conclure.
Ah oui.
Ma série de questions, j'en ai d'autres, mais j'aimerais bien laisser la chance aux autres de te parler. Tu as dit tantôt que pour toi, Borderline, La Brèche, La Lune dans un HLM, c'était une trilogie, que là, tu as fermé le chapitre est clos, tu fermes le livre, tu passes à autre chose. C'est quoi ton prochain projet?
Hey, j'en avais deux autres, là. Puis là, finalement, c'est drôle, je viens de commencer quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec mes deux autres projets, tu ne le savais même pas. J'avais deux autres projets qui étaient un FXR, écrit sur la génération des antidépresseurs. Mon Dieu, combien il y a de personnes qui en prennent, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Fait qu'il y avait cette envie-là. Et puis l'autre livre, c'était de faire un livre sur Marie-Thérèse Walter, qui était la mante, la maîtresse de Picasso, longtemps, presque une grosse partie de sa vie, en fait. Il y a eu Maya avec elle, il y a eu sa fille avec elle, mais il ne s'est jamais marié avec elle. Il la gardait tout le temps cachée à l'extérieur, mais il profitait d'elle, il allait la voir, il lui donnait à peine de l'argent pour arriver dans la vie. Il le connaît à 17 ans, il a profité d'elle au max. Puis quand il est mort, elle s'est suicidée en 10 ans avant, là, en disant « je m'en vais le rejoindre parce que qui va prendre soin de lui dans l'autre vie? » Fait que j'avais envie d'écrire sur une histoire d'amour tordue comme ça, sur ces deux-là. Puis là, bon, il y avait mes notes, tout ça. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à écrire des histoires pour ados. Puis ça me fait du bien! C'est loin de moi, ça fait du bien!
C'est comme un retour à Fille d'aujourd'hui, parce qu'elle a longtemps écrit dans Fille d'aujourd'hui.
Ah, ça fait du bien, oui, 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 oui.
Donc, vraiment, t'as fermé la porte, puis...
Oh non, j'ai pas fermé la porte.
Non, mais pour tout de suite...
Je suis juste fatiguée. Fatiguée parce que quand j'écris des livres, moi, c'est... Tu sais, au complet, là, tu sais, autant j'ai... Tu sais, c'est un mélange, moi... Héroïne, tout est mélangé, fait que je suis juste fatiguée. J'ai envie d'écrire sur des choses simples, tu sais.
On a hâte de lire. Merci beaucoup, Marie.
Merci.
Merci de ta générosité.
Faites la vague.
On n'est pas au Centre Molson.